Hello, beautifuls. Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève. Que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga et aux cours d'anatomie ludique et appliquée à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Épisode 119 avec Charlotte Saint-Jean. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Saint-Jean, qui est une femme lumineuse. Si vous l'avez déjà croisée, vous vous souviendrez de son regard profond et de son sourire communicatif. Son énergie est douce et à la fois puissante, et elle élève les gens autour d'elle. J'avais vraiment hâte de l'interviewer. Charlotte est professeure de yoga, formatrice, coach, et elle aide les entrepreneuses à développer un business aligné. Dans sa pratique de yoga, Charlotte est inspirée par le style original de Shiva Ray, qui s'appelle le Prana Flow, et ce style l'a elle-même inspirée à créer le style Shiva Shakti Flow Yoga et l'école qui porte le même nom pour des formations accréditées. Elle est également l'autrice de deux livres, Rayonner sa puissance au féminin, sorti chez Erol, et Yoga et rituel des neuf déesses, honorer son féminin sacré chez Jouvence. Avec Charlotte, on plonge dans la spiritualité et elle nous raconte un magnifique conte Selkie qui nous invite à nous questionner si nous sommes bien connectés à notre peau authentique. Charlotte nous donne également des conseils pour cheminer vers cette peau authentique. Elle nous parle de ses deux expériences où elle a frôlé la mort et des changements qu'elle a mis en place dans sa vie pour vivre davantage. Elle nous parle également de la transition vers la ménopause et de comment elle accueille cette saison de la vie de manière naturelle. Elle partage aussi ses conseils pour un entrepreneuriat aligné et bien plus encore. Peu importe votre âge, je sais que cet épisode vous parlera. Et personnellement, j'adore me renseigner un peu sur les femmes plus âgées pour savoir comment elles vivent cette saison de leur vie et comment je peux tirer des leçons pour m'orienter dans le moment présent. Nous avons enregistré cet épisode à l'extérieur au Bliss Festival sur une table, alors qu'il faisait bien froid. Donc vous pouvez entendre un peu du bruit d'ambiance. J'espère que cela ajoutera au cadre de notre conversation. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Charlotte, je suis ravie d'entamer cette conversation officielle avec toi, puisque ça fait déjà quelques minutes qu'on discute. Bienvenue sur le podcast.
Merci.
Ouais, on enregistre ici au Bliss. On a trouvé un petit endroit pour avoir cette conversation. Je suis ravie. Et tes beaux yeux devant moi, là, ton énergie, je suis déjà à fond. Donc, tu es quelqu'un de très spirituel.
Oui.
On va pouvoir parler de ça, évidemment. Mais j'aimerais savoir d'où t'es venue cette spiritualité. Où est-ce que c'est né?
Alors, c'est né quand j'étais peut-être très jeune, enfant. Mais c'était pas du tout la spiritualité de maintenant. Quoique, c'était peut-être ça, mais j'avais pas d'échappatoire. J'avais pas de chemin que je pouvais suivre à ce moment-là. Mes parents sont athées. Ma famille n'est pas du tout religieuse, spirituelle, n'a pas d'ouverture de quoi que ce soit dans ce sens-là. C'est des bonnes personnes, mais plutôt contre tout ça en plus. Et du coup, moi, je sentais dès jeune âge, il y avait quelque chose d'autre, comme si je cherchais la porte d'ailleurs, comme dans Narnia ou un truc comme ça. J'allais ouvrir un placard et c'est ça que je cherchais. Et je l'avais pas chez moi, vraiment. Et finalement, j'ai trouvé un peu refuge dans l'église. Mais très jeune, 6-7 ans, j'allais à l'église et sans mes parents, en fait, j'allais toute seule. Surtout à partir de 9 ans, on va dire, j'allais toute seule à l'église tous les dimanches et je me retrouvais pas forcément dans la structure dure de la religion qu'on peut voir, mais surtout dans cette célébration et cette énergie, les voix. Moi, j'avais la grande chance aussi de faire partie d'une église assez évangéliste, avec un vicaire qui revenait d'Afrique et qui adorait le chant. Il adorait chanter, il adorait les guitares électriques dans l'église, il adorait vraiment cette célébration-là. Donc, j'avais beaucoup de chance d'avoir cette énergie-là. Et des jeunes adultes, plus jeunes que je suis maintenant, qui encadraient des groupes de jeunes. Donc, j'avais ça... Le dimanche, certes, mais aussi un lundi soir dans la semaine, et d'autres fois aussi des événements, une fois par mois, on allait à Birmingham, à l'église gospel. Et ça nourrissait beaucoup cette envie et ce désir d'autre, de célébrer le divin, on va dire. Okay, de célébrer la source ou la divinité. J'aimais bien le voir comme une divinité, pas forcément comme masculin ou figé dans une image. Mais j'ai vite compris que la société n'aimait pas trop en parler, surtout de la religion, surtout si tu étais trop évangéliste, surtout au sein de ma famille. Et du coup, je l'ai caché. Je l'ai enterré pendant des années. Et de temps en temps, j'avais des petites touches. Quand je suis allée à la fac, j'étais à Durham, dans le nord de l'Angleterre, qui est une magnifique cathédrale. Et j'allais étudier dans les cloîtres et dans la cathédrale là-bas. Et je me ressourçais en fait là. Et comme ça, donc j'ai trouvé des endroits, des touches. Quand je suis allée à Londres, j'ai trouvé certaines églises. De temps en temps, il y avait des concerts gospel. J'allais toute seule sans rien dire à personne. Et j'étais toujours super bien accueillie, j'étais toujours bien encadrée, j'adorais. Mais j'ai caché en fait cette partie de ma vie beaucoup. Et c'est seulement en quittant l'Angleterre, et en venant en montagne, en France, que j'ai commencé à accueillir une autre façon de célébrer cette divinité, on va dire. Mon ex-mari, il était très ouvert à toutes sortes de pratiques, du Reiki, de l'énergie, de l'énergétique. Mais encore, lui, il est aussi contre cette idée qu'il y a une divinité, il y a un divin qui gère des choses. C'est pas qu'il gère des choses, mais il avait du mal avec ça. Donc, encore une fois, j'étais seule dans mes recherches quelque part. Et c'était à travers, pas que, mais à travers le yoga, à travers surtout la méditation et certaines retraites, et aussi beaucoup de temps passé dans la nature, où je me suis vraiment reliée à cette voie spirituelle. Ce calling, comme on dit en anglais, cet appel, comme une sorte de mission sur Terre. Et progressivement, je me suis alignée avec ma féminité, ma spiritualité et mon appel, qui n'était pas forcément évident au départ. La féminité, le corps féminin, tout ce que l'énergie féminine voulait dire, Et même la spiritualité, c'était encore peut-être un mot que j'essayais de cacher. Tu vois, j'en parle pas à ma famille ou très peu, même maintenant, à 53 ans, même maintenant. J'en parle très, très peu. Et quand j'aborde le sujet, c'est toujours avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Je donne un exemple. L'autre jour, j'ai lancé un nouveau projet qui s'appelle Spiritude. On peut en parler peut-être plus tard, mais c'est pas pour ça que je le dis. Mais Spiritude, et j'ai mis dans le paragraphe après, ou la phrase après, l'harmonie entre ta vie professionnelle, personnelle et spirituelle. Et ma mère m'a envoyé un email pour dire « Tu t'es obligée de mettre le mot spirituel. » Et moi j'ai dit « Mais c'est le noyau de toute cette aventure, de tout ce projet, c'est le centre, c'est la source de cette démarche. » C'est de relier sa voie spirituelle avec le tout de sa vie. Tu vois, donc même maintenant, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est la peur ou l'incompréhension ou même à leur âge, à 80 ans, mon père est plus peut-être proche d'une idée de bouddhisme. Mais ma mère, elle veut tout analyser. Elle veut tout comprendre dans sa tête. Et j'essaie de lui expliquer, il y a des choses, maman, que tu ne peux pas analyser et comprendre dans la tête. Des fois, c'est dans le corps. C'est l'intuition, c'est une énergie qui coule, c'est le regard de quelqu'un, c'est dans le message d'un arbre, c'est dans un ciel avec plein de lumière, d'étoiles. Il y a quelque chose qui coule, qui c'est un courant. Il y a une vitalité de vie.
Et concrètement, qu'est-ce que toi, ça t'apporte, cette spiritualité?
De l'ancrage, tu as fermement de l'ancrage, de la stabilité, je dirais de la liberté, la confiance et une puissance, et une croyance dans l'avenir, dans la vie, dans l'énergie humaine, vraiment cette ferme croyance qu'au fond, tout ira bien. Et que chaque être, au fond, est en fait bien. Donc, ok, on traverse des influences noires. Ok, il y a du noir et du sombre dans la vie. Je dis pas que je vis sur une île bisounours sans challenge. J'en ai vécu des challenges. Mais ça me donne une croyance, une sorte de « je reviens à cette source ». Tu vois, ok, je suis déviée par un challenge, je reviens à cet ancrage. Je reviens à cette source de stabilité, de sérénité. C'est peut-être ma souveraineté, on parle peut-être de ça, mais c'est aussi la souveraineté de l'univers. Ça me donne ça, ça me donne une sorte de chemin de retour. Et oui, cette confiance dans le sauvage, dans l'intuition, dans le flot naturel de la vie, de faire confiance.
Il y a un conte que tu racontes sur ton site internet et je l'ai entendu moi la première fois lors d'un des ateliers que tu menais au Women's Spirit Festival.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter ce conte parce que je crois qu'il parle beaucoup de toi aussi. Dis-moi si je me trompe.
Il parle beaucoup de moi, je pense, dans mes premières recherches de moi-même, mais je pense que ça parle à tout le monde, hein. Surtout aux femmes, je pense, vraiment. Et c'est un conte, ce qui est intéressant, et ça j'y suis plus récemment, hein. C'est un conte ça s'appelle les Selkies. Conte des Selkies, les femmes phoques, des femmes qui se transforment de phoque vers femme, en fait, c'est ça. C'est un conte qu'on voit dans Clarissa Pinkola Estes, hein, les femmes courent avec des loups. Donc, ces sources de contes viennent de l'Amérique du Sud, évidemment. Mais c'est un conte qui existe aussi en Scandinave, dans les pays du Nord. C'est un conte qu'on retrouve aussi en Irlande, en Écosse, en Angleterre, et d'une époque où les pays ne se parlaient pas, hein, on n'avait pas Internet. Donc ça m'a toujours fasciné. Comment on arrive à avoir le même conte? Est-ce qu'il y a une once de vérité dans ces shape-shifting women, dans les femmes qui changent de forme? Donc ça c'est une première couche. Hein. Et la deuxième couche, c'est une recherche de sa propre peau. Quelle est ma propre peau? Et le conte va comme ceci. Donc, je vais le raccourcir légèrement. Mais en gros, il y a un pêcheur qui est sur une plage au milieu d'une nuit et il voit des femmes magnifiques qui dansent nues, mais des splendeurs, des merveilles, qui dansent, qui bougent, et puis il est fasciné. Et il voit des peaux de phoques par terre sur les rochers au bord de l'eau. Et il a compris que ces peaux appartenaient aux femmes qui dansaient. Et puis, il s'est dit, à un moment donné, elles vont se rhabiller. Elles vont se remettre dans leur peau. Donc, je vais prendre une des peaux pour moi. Comme ça, j'aurai la femme qui va avec. Donc, quand le soleil commençait à se lever, effectivement, toutes les femmes sont revenues vers les peaux, ont remis leur peau et sont parties dans l'eau en tant que phoque, sauf une femme qui s'est trouvée sans peau face au pêcheur. Et le pêcheur a dit, en fait, c'est moi qui ai votre peau. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous pendant 7 ans. On va vivre ensemble pendant 7 ans et dans 7 ans, je vous rends votre peau. Donc, il ramène la femme parce que la femme n'avait pas d'autre solution. Elle pouvait pas vivre comme ça. Elle avait rien du tout. Donc, pendant 7 ans, elle vit avec cet homme. Ils ont un enfant ensemble. Ils créent une maison, etc. Et elle donne tout ce qu'elle a pendant ces 7 ans à cette vie qui n'est pas la sienne. Et au bout de 7 ans, elle demande de sa peau. Et le pêcheur, qui est devenu très populaire entre-temps parce que sa femme est magnifique, il est devenu célèbre presque dans son petit village. Il voulait pas lâcher cette belle femme et cette famille qu'il a créée. C'était trop important pour lui. Donc, il ne rendait pas la peau. 8 ans, 9 ans, 10 ans, les années passent. Et l'enfant commence à grandir aussi, à voir sa maman faner et perdre sa lumière et perdre sa joie de vie et perdre toute sa couleur et son rayonnement. Et arrivé à un moment, l'enfant a dit, mais c'est plus possible, il faut absolument qu'on trouve ta peau. Donc, enfant et maman fuient dans toute la maison pour chercher la peau qui était trouvée au fond d'un placard, mais tout asséché, donc ne servait à rien. Donc, l'enfant part à la recherche d'une nouvelle peau, une peau de phoque pour sa maman. On file en aiguille, sorcière, guidance, etc., trouve une grotte avec plein de différentes peaux, certaines un peu plus asséchées que d'autres, et avec sa maman, ils ont récupéré les morceaux de peau et ont collé la peau sur la maman jusqu'à ce qu'ils avaient une tenue complète. Et c'est là que sa maman est redevenue phoque, femme phoque, celle qui. Et elle part à nager. Elle part, elle laisse son enfant derrière, mais l'enfant est plutôt content parce que sa maman est revenue. Et chaque pleine lune, ils se rejoignent, enfant-maman, pour danser pendant toute la nuit ensemble. Et après, celle qui, maman, repart à l'eau, avec toute sa lumière et son rayonnement. Donc, le moral de l'histoire, c'est évidemment, on peut faire semblant jusqu'à un point que tout va bien, que c'est OK cette peau qu'on a dû choisir, pu choisir, essayer. Mais à un moment donné, arrivé à un moment donné, c'est trop sec. La peau est trop asséchée et on a perdu sa lumière, son appel, son rayonnement. Et donc, c'est à nous, à elle, à toi, à moi, de retrouver ce chemin, cette peau de phoque, cette celle qui est en nous, pour qu'on puisse rayonner pleinement.
Magnifique, ça m'a donné des frissons. Mmh. C'est tellement une belle histoire.
C'est une très belle histoire, ouais. Hein, ça me touche beaucoup cette histoire. Ouais. Et ça me parle, mais juste parce que il y a des périodes dans ma vie où j'ai beaucoup perdu mon rayonnement et j'ai dû vraiment prendre des décisions pas toujours faciles pour retrouver cette lumière et me retrouver. Et pas une seule fois dans la vie. Donc c'est ça aussi qui est assez peut-être important de préciser. C'est pas juste parce qu'une fois on l'a trouvée qu'on va pas la reperdre. Parce qu'on peut être dévié par les situations de vie ou aussi par les choix. Ou aussi par les problèmes, les maladies, les choses qu'on n'a pas prévues. Hein. Donc ça peut aussi enlever le rayonnement et dévier la peau, on va dire.
Et si on zoome un petit peu sur ce moment où on sait qu'on n'est pas avec notre vraie peau, mais à la fois, on n'est pas sûr de quelle est notre vraie peau, parce que les années sont peut-être passées, on a oublié. Est-ce que si on arrive à décortiquer un peu presque l'anatomie de ce processus de retrouver sa peau, tu vois des choses, toi, une espèce de, je sais pas, de petit parcours qui revient pour retrouver sa peau originelle?
Ce que je vois dans mes retraites ou dans mes formations ou dans mes coachings, c'est que des fois, les personnes n'ont jamais, surtout les femmes, hein, je travaille beaucoup avec les femmes, pas que, mais essentiellement, beaucoup de femmes n'ont jamais trouvé cette peau. Peut-être quand elles étaient très petites, il y avait une espèce d'idée ou étincelle de... Surtout peut-être de ma génération, peut-être plus que la tienne, mais pas seulement. Mais des fois, jamais trouvé sa peau, jamais. Et du coup, c'est pas par où commencer, en fait. Ou savent pas par où commencer. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment revenir vers presque une mémoire ancienne, une première mémoire de quand elle se sent sentie ou elle s'est sentie vraiment elle-même, vraiment bien. Et ça peut être une expérience, un moment, un instant de courir dans les champs ou dans une forêt ou juste être vraiment entouré d'une certaine ambiance qui a parlé à leur esprit, à leur âme. Et de partir de là, de dire « Ok, alors qu'est-ce qui t'a touché à ce moment-là ?» Et de faire un schéma de « Ok, on va partir de là, ça va être notre ancrage, notre point de stabilité, notre point de sécurité presque, tu vois. » Et de voyager de là pour dire « Ok, là, je pars de là, je veux maintenant accueillir tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce point sans culpabiliser, sans dire « Punaise, si j'avais changé de chemin il y a longtemps, ma vie sera différente et peut-être mieux. » On peut pas changer le passé. C'est ça aussi. Il faut qu'on accepte à un moment donné, on est la somme totale de qui nous sommes. Ok, un certain processus d'acceptation de tout ce qui s'est passé. Maintenant, je suis là. Comment je veux aligner ce que je fais? Comment je veux réaligner vers cette petite fille peut-être? Ou vers cette mémoire ou cette sensation de moi entier. De moi quand je me sentais super bien. Quand j'étais alignée avec une voix, un appel, quelque chose, et auquel, oubliant la réalité de maintenant, hein, oubliant les barrières qu'on peut se mettre devant soi, tu vois, donc les insurmontables des fois, hein, quand je savais que j'allais devoir divorcer, pas parce que je détestais mon mari, mais ça marchait plus, mon rayonnement était en train de, je soutenais une famille avec une espèce de parapluie de joie. Mais moi, j'étais pas heureuse. Mais la réalité, après ça, c'est « Ok, j'accueille, j'accepte qu'il faut que je le fasse, mais comment ? Comment je vais faire ce pas devant pour passer le cap et vivre dans l'abondance, vivre dans le rayonnement, vivre dans la joie et vraiment m'élever de ce socle stable qui est moi-même, finalement ?» Donc ça, c'est le même chemin, peu importe. Hein, donc, mais si on n'a jamais senti cet appel, faut trouver juste un moment où vraiment on avait une sensation de « Ah !» et dénicher le pourquoi. Mais si, par exemple, quelqu'un a déjà vécu une période dans leur vie où ils savaient, surtout les femmes encore, donc elles savaient qui elles étaient, qui elle est, qui elle était, et elles veulent retrouver cette personne-là, quand même en intégrant, parce que tu peux pas l'oublier le passé, en intégrant ce qui a été vécu pendant entre-temps, comment je vais retrouver ça? Et pareil, donc on ancre, on accepte, on aligne, on réaligne, et on voyage vers quelques outils, vers cette joie, cette manifestation, cette abondance de vitalité, même si ça veut dire je laisse beaucoup de choses derrière moi. Même si je recommence à zéro. Et ça fait peur aux gens. Hein, le nombre de fois j'ai eu les personnes qui m'ont dit « Oui, mais ça veut dire que je repars à zéro. » Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. C'est ok. C'est ok, je suis toujours là. Hein. Je suis habillée, j'ai un sourire, j'ai de quoi manger, j'ai un toit, je suis entourée d'amour. Ça va. Mais c'est de faire ce pas-là, ça fait très très peur en fait. Et les gens veulent pas sentir la peur. On veut pas vivre dans la peur, mais la peur des fois est nécessaire pour qu'on se rende compte en fait de la joie qui va venir après. Je lis un livre en ce moment qui est magnifique et ça s'appelle The Well-Lived Life. C'est Dr. Gladys McGarry, ou McGarry en fait. Elle a 102 ans. Elle a écrit ce livre cette année. C'est sorti cette année. 102 ans.
La classe.
La classe. Mmh. Et c'est une femme qui est médecin et qui a été médecin depuis 80 ans, qui continue aussi à consulter un peu. Pas autant, mais un peu. Et dans le début du livre, elle dit j'ai consulté, j'ai aidé beaucoup de gens qui avaient tellement peur de vivre, de mourir, qu'ils oubliaient de vivre. Qui voulaient tellement maigrir ou avoir la bonne régime qu'ils se tuaient parce qu'ils ne mangeaient pas ou par ce qu'ils ont choisi de manger. Et ça m'a touchée, j'ai dit waouh. Et puis elle rajoute, chaque personne est là pour une raison. Et the life force, la vitalité de la vie, si on l'arrête, c'est là où la souffrance commence. Notre job, c'est de prendre conscience de nos blocages, de nos peurs, hein, et de les éliminer, et de vivre dans le flot de la vie.
Ouais, c'est trop beau. Mmh. Il y a un autre livre aussi qui est un peu dans la même texture, je pense, de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a écrit « Les 5 plus grands regrets des mourants ».
Ah.
Et
oui.
Le premier, c'est « J'aurais aimé vivre selon moi et pas selon ce que je pensais que les autres voulaient de moi ».
Eh oui,
ouais.
Tu vois, on revient au selkie. Hein.
Ouais, complètement. Ouais, et ouais, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit aussi par rapport au fait de se dire que parfois on arrive et il y a des moments dans la vie où en fait elle nous prend tout, ou alors on doit vraiment se détacher complètement de ce qui est connu, et que ça fait très peur pour arriver où à un moment on a plus rien, on a un peu brûlé le passé. Et ce processus de se détacher complètement de quelque chose de connu pour aller dans un espace où c'est juste the big unknown, c'est tellement courageux. Et je pense que c'est un peu un prerequisite pour évoluer pourtant, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, le saut dans le vide. Le saut dans le vide, je pense que c'est la seule chose que tu peux faire, en fait, pour vraiment rencontrer le rien. Le ok, si je suis pas, souvent je joue un jeu avec moi-même, hein, donc le jeu c'est ça, et si je perdais tout demain, il y a un super processus que j'utilise des fois dans mes coachings aussi, et tu dis bon, c'est émouvant et les gens sont émus des fois donc quand tu fais ce processus, donc il faut bien l'encadrer, hein. Donc voilà, c'est le spoiler alert, hein, donc faites attention, mais je vais pas tout faire parce que je vais pas faire le processus là parce que c'est assez détaillé. Mais en gros, tu commences avec, imagine que tu avais 12 mois pour vivre. T'avais juste un an qui restait. Qu'est-ce que tu arrêterais tout de suite de faire? Et qu'est-ce que tu feras plus si tu as un an? Après, ça descend à 6 mois. 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 jour. Et chaque fois, tu as très peu de temps pour écrire. Tu vois, donc tu écris, ok, j'arrête ça. Et je commence ça, ou je fais plus ça. J'arrête ça, je fais plus ça, j'arrête ça. Et finalement, tu arrives à une chose souvent. Une phrase. Et cette phrase-là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'action là-dedans? Tu vois?
J'adore, je vais le faire.
C'est hyper puissant, c'est très très puissant, et il faut mettre un timer, hein, parce qu'il faut pas beaucoup de temps entre les écritures. Première fois, tu laisses un peu de temps, tu vois, j'ai 12 mois, j'ai un an, ok, j'arrêterai quoi? Si vraiment je devais tout arrêter, dans peu de temps, je ferais quoi? Ok, donc tu laisses un peu de temps, peut-être tu as 1 minute pour réfléchir, hein, ou même plus. Mais à 6 mois, tu réduis le temps. Et quand tu arrives à 1 jour... même 1 heure, tu peux même descendre à 1 heure, tu ferais quoi? Et tu laisses très peu de temps pour écrire.
Génial.
C'est hyper puissant, et moi je suis arrivée à, j'aimerais plus les gens autour de moi, et amour en fait, c'est fini avec l'action de amour. Gratitude était juste avant, pour tout ce que j'ai vécu, et amour. Et en fait, j'ai failli mourir 2 fois dans ma vie en fait. Et j'en parle assez ouvertement. à mes élèves, etc., à mes amis. La première fois, c'est quand ma deuxième fille est née. Et je me suis vraiment vue d'en haut, avec des anges tout autour. C'était plutôt sympa, c'était plutôt plaisant comme expérience. Et en revenant sur Terre, j'ai senti que ce n'était pas le moment pour moi de partir. Et en revenant sur Terre, j'avais une pêche. Pourtant, je venais de donner vie, j'ai failli mourir aussi en même temps. Et je devais assumer non seulement ma première fille qui avait 5 ans, mais aussi ma deuxième qui venait de naître. Et j'avais une énergie de folie. Et je savais que quelque chose de profond venait de se passer, mais c'était que 1 mois et demi plus tard, je cherchais sur Internet de la musique pour aller avec mes cours de yoga et j'ai mis dedans Shiva Shakti ou Shakti, un truc comme ça. Et après est sorti, je sais pas pourquoi cet album est sorti. Tiens, tu as regardé ça, il y a ça qui pourrait t'intéresser. Tu sais comme ça fait dans beaucoup de choses, les algorithmes. À l'époque, moins bien que maintenant, en plus. Et est sorti un album qui s'appelle 100,000 Angels. Et le premier morceau a ce même titre, 100,000 Angels. Et j'ai acheté l'album, et j'ai mis l'album, et j'ai pleuré mes décors, des larmes du fond de mes tripes, parce que c'est ça que j'ai vécu. C'est l'énergie que j'ai vécue. Et non seulement ça, la couverture de l'album, c'est ce que j'ai vu quand j'étais pas là, quoi, out. Et la deuxième fois que j'ai failli mourir, j'ai vraiment failli mourir dans l'ambulance. J'ai eu un accident de ski il y a pas si longtemps que ça, il y a presque 5 ans. Et c'était moins sympa, c'était plutôt une bataille, une lutte. Mais par contre, après, allongée dans la réa de l'hôpital de Grenoble, je fais ok, si c'était toi qui partais demain, tu ferais quoi là? Dans les heures et les jours qui viennent là. Dans ce lit d'hôpital bien entouré, ça craint rien à la limite, au pire, ils vont enlever leur rein. Mais bon, si vraiment, qu'est-ce que tu ferais plus quand tu sors? Tu vois, et puis après, plusieurs années plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un cancer de peau que j'ai trouvé moi et qui était déjà bien avancé, mais on l'a enlevé. Un bon trou dans la jambe. Et rebelote, ça remet en question, ok, d'accord, qu'est-ce qui est le plus important? En fait, tu reviens à ça, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Est-ce que c'est la belle maison, les 2 vacances par an, la belle voiture, le ci, le ça? Non, c'est pas si important que ça, finalement, non. C'est les câlins de mes filles, c'est rigoler, c'est rire avec ma famille, mes amis, c'est des câlins. C'est des câlins cœur à cœur. C'est de pouvoir regarder dans les yeux de quelqu'un comme toi, là. Tu vois, c'est la synergie qu'on peut sentir entre toi et un animal, ou entre toi et la nature. La beauté de la nature, les nuages, les pleines lunes en montagne, les levées de soleil, tout ça. Pour moi, ça, c'est le plus important.
J'adore. C'est vrai que même si ça fait peur, contempler la mort, que ça soit par un accident et du coup qu'on n'ait pas le choix de se poser la question, ou que ça soit juste de l'invoquer comme intention, même dans notre quotidien. Parfois, je me dis, si c'était la dernière journée que tu vivais, c'est vrai, comment tu la vivrais? Moi, les premières choses qui sont apparues quand tu as dit ça, c'est « j'arrêterai de me plaindre ». Tu vois, parce que souvent, je me plains parce que je me prends la tête pour des futilités qui, en fait, me gâchent le moment.
Ah oui.
Où, en fait, il n'y a pas utilité de faire ça. Ouais. Et du coup, je me gâche le fait d'être pleinement là, de kiffer, en fait.
Ouais, ouais.
Et c'est fou qu'est-ce que... Ouais, je peux... Tu vois?
Ouais, ouais.
Le mental, tout ça.
Ouais, d'arrête de coûter le mental, je crois. Ouais, 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 ouais. Et quand on revient à l'essentiel, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Là, ça devient plus simple de dire, ok, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie?
Ouais.
Et quelle énergie je veux manifester dans cette vie? Qu'est-ce que je ne supporte plus dans cette vie? L'autre période, et je sais que tu voulais éventuellement l'aborder, c'est la période de ménopause. Dans la vie d'une femme, c'est inévitable à un moment donné. Tu vas arrêter de saigner, tu vas passer par cette phase, cette transition physique qui est aussi très émotionnelle et très symbolique et très énergétique, etc. Donc ça comporte beaucoup de choses. C'est une vraie transition et c'est inévitable. tu vas y arriver, tout comme la mort. Et plus on a une belle relation avec l'idée de la mort, cette fin, plus on va respecter et honorer la vie. Je vais revenir aux ménopauses dans un instant éventuellement, mais ma meilleure copine avec qui j'ai grandi, donc je la connais depuis 51 ans, elle est doula d'âme. Donc elle accompagne les personnes à la fin de leur vie. Sage-femme de l'âme, c'est aussi un mot qu'on utilise. Et elle m'a dit, en fait, ce qui est très intéressant et très parlant, c'est quand tu relis les éléments au corps, à la naissance et à la fin. Et donc, elle le décrit un petit peu comme ça. Elle dit, tout d'abord, il y a la matière, il y a la terre. Puis tu es entouré des eaux, des liquides, donc il y a l'eau. Au moment de la naissance, il y a le feu, il y a la puissance de l'accouchement. Première chose que tu prends, c'est quoi? C'est de l'air. Et quand tu commences à aller vers la fin de ta vie, c'est le processus à l'envers. Tu commences à perdre le souffle. Tu regagnes un moment de feu très peu avant la mort, en fait. Je ne sais pas si tu as vu les personnes qui étaient en train de mourir.
Il paraît qu'elles ont un élan de vie.
Comme une lumière, en fait. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, cette personne ne va pas mourir. Elle est en pleine forme, elle est lucide, elle parle, elle a des projets, etc. Et le lendemain, la personne n'est plus là, souvent. C'est un dernier élan. Ça peut se produire en colère. Il y a des personnes qui sont hyper en colère à ce moment-là. Mais ça peut aussi être « ok ». J'ai un espace là de temps, je vais l'utiliser pour faire et dire des choses que je voulais faire et dire. Puis bah, par la suite, on commence à perdre l'eau, on commence à pleurer, on commence à perdre, on assèche le corps, on perd nos eaux en fait. Et puis finalement, on va dans la terre, mais au départ, il y a une chose qui se passe. Et ma copine, donc Sarah, elle voit ça très souvent. C'est l'esprit qui part, c'est l'esprit qui quitte le corps. Elle me dit ça, c'est un moment quand la terre est là, la terre s'y posée, et peu de temps après, tu vois comme une sorte de nuage qui quitte le corps. C'est magnifique, hein? Ça donne des frissons chaque fois que je raconte ça. Et c'est avec Sarah que j'ai grandi, pas du tout dans cette énergie spirituelle. Nos mamans étaient pas du tout dans ça. Nous, on jouait au secrétaire à l'époque, etc. On ciblait autre chose. Et finalement, on s'est réunis dans cette idée de spiritualité. Elle, d'une façon, et moi, d'une autre. Moi, via le yoga, l'accompagnement, la méditation, coaching, et elle, en accompagnement pour les personnes mourantes.
C'est très beau. J'ai appris ça, qu'il y a des femmes qui se spécialisaient dans l'accompagnement de l'âme à transitionner. Je trouve que c'est magnifique.
Et en fait, son travail, souvent, c'est avec la famille autour, les personnes autour qui veulent pas accepter le départ. Souvent, la personne elle-même accepte, mais c'est la famille qui n'accepte pas, aussi les amis ou le partenaire, etc. Donc, elle fait beaucoup de travail d'accompagnement. Et ce qu'elle encourage, souvent, c'est un rituel. Il faut ritualiser tout ça. Il faut le rendre exceptionnel et oui, il faut créer un rituel pour rendre cette chose finalement ordinaire, parce que tout le monde naît, tout le monde meurt. Mais finalement, le rendre exceptionnel. Et le ménopause, pour revenir à ça...
Oui, j'aimerais qu'on parle de ça.
C'est une transition et un rituel aussi. Moi, j'avais jamais peur de ça. Je sais que beaucoup de femmes ont un peu d'appréhension, peut-être pas de peur, mais d'appréhension de cette phase de la vie, parce que c'est... Pour différentes femmes, ça veut dire différentes choses, hein. Je suis plus femme, je suis plus fertile, je suis plus féminine. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, hein? Donc la féminité, donc ça c'est tout un autre débat quelque part. Moi j'avais jamais ces appréhensions, mais je savais pas trop ce qui allait se passer. Et j'ai pas souffert de beaucoup de symptômes, et j'ai rien pris. Mais même en n'ayant pas beaucoup, j'en ai quand même eu. Et par contre, j'ai accueilli cette période comme une période de transition et une véritable remise en question. Ok, qu'est-ce que je vais accepter? Quel est mon alignement dans l'avenir? Qu'est-ce que je vais vraiment plus du tout accepter? Qu'est-ce que je veux vraiment incarner? Et apprendre à dire le nom sacré, ce mot non. et avec puissance et force, parce que ça ouvre tellement de portes après quand tu dis non, ça je n'accepte plus. Et c'est pas facile pour une femme de faire ça, parce qu'une femme a l'habitude de dire oui, de materner, d'accueillir, de vouloir l'harmonie de tout le monde. Sinon, elle est souvent traitée comme égoïste. Tu penses qu'à toi, pense aux autres, etc. Et du coup, j'ai vraiment accueilli cette période comme une période de transition. Mais c'est une période où on ressent beaucoup de doutes, manque de confiance. Le corps change, hein. Le corps change, c'est sûr. On a peut-être moins d'énergie. On a moins de patience, surtout pendant une période. Après, on se réaligne, grosso modo, hein, donc suivant les femmes. Mais ça peut durer très longtemps, cette période. Là, j'arrive à une période où je suis beaucoup plus stable. Mais j'ai fait peut-être deux ans et demi de beaucoup moins bien. Beaucoup de longues randonnées. Pour ne pas être la personne que je sais je ne suis pas. Pour ne pas être sur les nerfs avec ma famille, j'ai des jeunes enfants à la maison encore, parce que mon chéri, il a deux jeunes enfants, donc on a quatre enfants entre nous, souvent trois ou quatre à la maison, et du coup c'est beaucoup à gérer des fois, quand toi-même tu es hormonal et en train de vivre des changements. Et je pense que la communication c'est important, mais aussi prendre le temps d'accueillir cette transition. Et je pense que beaucoup de femmes, je soupçonne et je vois, beaucoup de femmes veulent pas l'accepter, veulent l'ignorer, le cacher en faisant des liftings, peut-être refaire les seins, enfin je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais essayent de relooker leur corps pour rester jeune. Donc c'est pas que je veux ressembler à une vieille quelque chose tout de suite, ou quoique. The queen que je vais devenir, ça va aller. Et queen, j'aime bien ce mot, parce que souvent en anglais, on dit maiden, mother et crone pour les phases de la vie d'une femme. Mais je crois qu'il y a une phase entre mère et crone, et c'est queen, c'est reine, tu vois, donc cette déesse reine-là. Donc je suis en plein dans cette période-là, je crois. Dans l'accueil de la sagesse ancienne, l'accueil de la sagesse de la vieillesse, de cette vie que j'ai. Mais aussi une puissance aussi. Une fois qu'on a passé un peu cette période d'angoisse, il y a une vraie puissance qui s'installe. Et j'aimerais quand même souligner ça pour encourager les femmes de dire « Ah, donc c'est pas tout négatif ». Non, il y a une liberté et une puissance qui arrive avec ça. Rien que la vie sexuelle, on n'a plus des règles. Et en fait, je sais par un médecin qu'il faut continuer les relations autant que possible et régulièrement parce que on a moins les effets de libido et de l'œstrogène, pardon, qui baisse trop. Donc plus on fait l'amour, mieux c'est, apparemment. Donc, mais on a beaucoup plus de liberté, énormément. On n'a pas besoin de... On n'est pas inquiète par rapport à la fécondité et tout ça. Donc, c'est très libérateur ou libératrice. Mais sans parler de ça, il y a une vraie puissance qui s'installe. Une fois que tu passes un petit peu vers la fin de la transition, je dirais. Mais cette transition peut durer longtemps. Hein. Et vraiment, j'encourage de l'espace. Regarder cette période de la vie vraiment comme un rituel. Une partie incroyable de vraiment rechoisir sa peau de celle qui. Tu vois ce que je veux dire?
Grave. Et j'adore parce que déjà, tu donnes vraiment des outils concrets en termes de prenez le temps, allez faire des randonnées pour accompagner vos processus qui sont vrais, vu que tu as un vrai changement hormonal.
Aller randonner, c'est super pour ça, parce qu'on a le temps, on est avec la nature, on marche seul, et on a le temps de faire ce qu'on veut. On peut crier, on peut juste respirer, on peut juste... voilà, mais on a une vraie période de connexion avec soi.
Ouais. Et aussi, j'adore la période queen, parce qu'en fait, je le vois pour ma mère, je connais d'autres femmes qui ont aussi un peu ton âge, et en fait, pour la plupart, les enfants... commencent à partir, donc ça y est, elles ont cette liberté, elles ont un pouvoir financier aussi peut-être maintenant, et en fait elles sont à un stade où elles savent que ben, le temps passe, ça y est, et maintenant elles sont généralement en mode « maintenant ». Je dis oui à moi et je trouve ça hyper beau. Enfin, je vois ma mère qui est dans cette étape et je la trouve tellement belle et inspirante pour moi qui ai une trentaine d'années, qui suis submergée parfois par la vie et elle, je la sens vraiment ancrée dans une féminité qui est fantastique. Donc merci pour ça. Je trouve que c'était hyper bien articulé et très bien mis en lumière.
C'est intéressant ce que tu dis. Inspirante, oui, d'accord, mais c'est cette liberté, ouais. D'un coup, tu te sens beaucoup plus libre d'être toi. C'est pas que j'ai pas été moi avant, mais je suis davantage dans mes capacités d'être moi, d'assumer qui je suis. Peut-être financièrement, ok. Peut-être sans parler finances, juste dans mon propre énergie, dans ma façon de me comporter, dans mes valeurs à moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Il y a une chanson que j'ai mis hier, un morceau de musique hier dans ma séance de yoga à l'atelier. Tout le monde a dansé dessus. Et ça s'appelle « Am I Just Living ?» Am I Just Living de She, S-H-I-I, je crois que c'est. Et dans la chanson, c'est Am I Just Living? Est-ce que je suis juste en train de vivre? Ou est-ce que j'ai une vie? Or have I got a life? Have I got a real life? Et puis dans le morceau de musique, ça pose des questions. Est-ce que les gens sont en train de te dire que tu devrais plus suivre tes rêves? Est-ce que les personnes autour de toi, en fait, cette influence-là n'est pas en alignement avec toi? Qu'est-ce que toi tu veux faire de ta vie? Et j'ai entendu une femme qui avait 94 ans dans l'entretien, un trottoir qui était fait avec elle. Magnifique queen, vraiment, une déesse. Et on lui a posé la question, alors c'est quoi le secret pour vous de la vie? Vous avez 94 ans, vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes plus jeunes, justement? On dit, ah, ok. Ne jamais perdre de vue tes rêves. N'ayez jamais peur de te donner des challenges. Toujours être à la poursuite de tes challenges. Dis-moi, à 60 ans, on m'a proposé un boulot en Europe. Moi, je suis américaine, je vis aux États-Unis. À 60 ans, on m'a proposé mon travail de rêve. J'ai pas hésité une seule seconde, je suis allée. J'ai toujours rêvé de vivre sous les toits à Paris. Je l'ai fait. Jamais perdre de vue tes rêves. Toujours oser poursuivre dans la mesure de possible de ton physique, de ton corps. Fais-le. Ne dis jamais non à ça. Et je crois que c'est super important. Comme dans le livre que j'ai mentionné, The Well Lived Life, l'énergie coule, il faut laisser cette énergie couler. C'est super important.
Trop beau. J'aimerais qu'on parle un petit peu entrepreneuriat.
Oh, ok.
Parce que tu es une entrepreneuse exceptionnelle depuis de nombreuses années.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat pour toi?
Je sais que c'est une question que tu poses souvent. Mm-hmm. Et c'est vrai, l'entrepreneuriat et la spiritualité est souvent vu comme un clash monumental, que ça ne peut pas aller ensemble. Moi, j'ai envie de dire que l'argent, l'entrepreneuriat et la spiritualité, c'est la même chose, c'est de l'énergie. C'est que de l'énergie. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça veut dire une certaine liberté de vraiment faire ce que j'ai envie de faire. De ne pas avoir peur de dire non ou d'arrêter les choses qui n'ont pas marché, juste par obligation de les continuer. De toujours cibler une certaine simplicité et toujours être en alignement avec ce que tu as envie de faire. Et moi, je me pose la question chaque année. J'ai envie de faire quoi cette année? Quels sont mes objectifs? Quelle est la direction énergétique et financière que je souhaite mettre en place pour les 6-12 mois à venir? Et pour moi, c'est super important de faire ça et de toujours être aligné avec ce que je suis vraiment, de ne jamais dévier de ça, parce que comme ça, je sais que j'aurai envie de travailler. Le nombre de fois où on se lève et on dit « putain, il faut que je fasse ça aujourd'hui ». Et du coup, tu vas l'esquiver, tu vas essayer de ne pas le faire. Mais si tu as envie de faire, et c'est ce que je dis aux entrepreneurs des fois, je dis mais c'est toi qui as mis cet objectif en place, c'est personne d'autre. Donc si tu veux pas cet objectif ou si tu veux pas faire ça, arrête. Mais arrête aujourd'hui. C'est pas la peine de perdre du temps, ni de l'argent là-dessus, ni de l'énergie là-dessus, parce que tout est énergie et les gens vont le ressentir. Si tu fais quelque chose à contre-cœur ou par obligation, ça c'est dans toute la vie pareil, c'est pas juste dans l'entrepreneuriat, les gens vont le sentir. Tu peux être balayeur de rue et adorer ce que tu fais, hein. Et c'est pas en dénigrant ce métier-là, mais c'est un métier simple et noble et on en a besoin. Mais si tu prends plaisir à le faire, jamais tu vas te lever en disant « il faut que j'aille au travail, quoi, il faut que je balaye les rues ». Mais si en fait je le fais avec le cœur, parce que j'adore faire ça, mais c'est pareil dans tout ce qu'on fait. Donc l'idée d'aligner ta spiritualité, ton leitmotiv, ton appel, ta souveraineté, tes valeurs avec ce que tu fais professionnellement dans tous les domaines, ça va non seulement te donner confiance dans ce que tu fais, mais de la joie aussi, mais ça va aussi nourrir ta créativité. Ça, c'est important. Et l'autre chose qui est très chouette, et je sais que toi, tu le fais aussi, et tes copines, et moi, je le fais beaucoup, c'est la co-création, c'est de co-créer des choses, de ne pas avoir peur de travailler avec d'autres personnes, c'est pas forcément que des femmes, mais de travailler avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs, par contre. Je pense que ça, c'est très important. Mais de ne pas avoir peur de ça, de co-créer, des fois, c'est très riche. Moi, j'aime bien travailler entre générations aussi. Je vais entamer un processus cet hiver d'écriture d'oracle avec une jeune femme de ton âge qui va dessiner et moi, je vais écrire. Donc, on a deux générations différentes, deux approches différentes, mais les mêmes valeurs, les mêmes cibles. Et ça, c'est magnifique. Donc, l'autre chose, c'est de toujours faire quelque chose qui est créatif. Même si tu as certaines obligations financières dans le mix, certains projets qui vont payer tes factures, rentabiliser, encore une fois, essaye de le faire dans la mesure du possible avec joie et alignement. Mais n'oublie pas des projets créatifs à côté. Parce que sinon, ça va devenir juste un boulot. Comme la pratique de yoga, quand beaucoup de profs de yoga commencent à enseigner, ils oublient de pratiquer. Ils se disent « Oui, mais je vais pratiquer dans mon cours. » C'est pas vrai, tu pratiques pas dans ton cours. Donc, si ça arrive comme ça, pratique. Même si c'est 20 minutes le matin, pratique pour toi. Parce que sinon, ça devient comme juste un job. C'est David Swenson qui m'a dit ça il y a des années. C'était mon prof d'Ashtanga Yoga. Il m'a dit « N'oublie jamais de pratiquer, Charlotte. Sinon, ça va juste devenir un boulot comme si tu travaillais dans un magasin, etc. pour payer tes factures. C'est une passion. »
Et je suis témoin que tu pratiques parce que je me souviens de la première retraite de yoga. Ouais. Donc, je l'ai fait à tes côtés.
Ouais.
Et tu es arrivée à Saint-Jean-de-Luz et direct t'es montée. T'avais fait du voyage et t'as dit, il faut que je fasse une pratique. Et je me souviens que t'as vraiment une rigueur de pratique qui rend ce que tu partages aussi très authentique et connecté.
Je pense que c'est important. En fait, je dis toujours à mes élèves en formation, et je le dis à moi-même souvent aussi, je ne peux qu'enseigner, en fait, par ce que je vis, ce que je ressens et ce que je fais. Donc, si je ne l'ai pas pratiqué moi, si je ne le ressens pas moi, je vais pas pouvoir le transmettre. Et je peux pas, du coup, transmettre quelque chose si je ne suis pas en train de bouger mon corps et de faire ma pratique moi-même. Mais ça, c'est aussi la méditation. C'est pas juste une pratique de posture. C'est aussi une rigueur de méditation tous les matins. Tu m'as vu courir dans le parc l'autre jour. On s'est croisé dans le parc à Bordeaux. Et je cours ou je marche chaque matin. Et c'est vital pour moi. Et c'est une forme de méditation pour moi, c'est une forme de pratique de mise en place pour la journée qui fait partie de ma routine. Et sans ça, j'alimente pas en fait ce prana shakti qui j'ai vraiment besoin de ça pour faire le reste. Tu vois, donc oui, la pratique pour moi c'est primordial. Le matin, dans l'ensemble, c'est le matin, mais si vraiment je perds le fil dans la journée où j'ai fait beaucoup de voyages et il y a trop de, pour les personnes qui connaissent l'Ayurveda, beaucoup de vata, beaucoup d'air, il faut que je ancre, il faut que je descende sur le tapis, sur la terre, pour revenir vers moi.
J'avais aussi envie de revenir sur quelque chose que tu as dit, que j'adore conscientiser, c'est cet aspect de responsabilité. Et d'empouvoirment dans le sens où se poser la question « pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce qu'en fait, c'est toi qui le mets en place. C'est toi qui as choisi ce job. C'est toi qui as choisi ce projet si tu es entrepreneur. Et si tu traînes ces énergies lourdes, you're responsible for it. Et parfois, moi aussi, je me lève le matin et je me dis, attends Anouk, t'es submergée par le stress et tout. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et de revenir à mon pourquoi, je sais pourquoi je le fais et du coup, ça ajoute un sens à ma direction un peu. J'avais envie de revenir sur ça parce que je trouve que c'était intéressant que tu amplifies ce côté. En fait, déjà, on n'est pas des victimes de la vie. On fait nos choix et on est responsable.
Ouais, on fait nos choix et c'est surtout dans l'entrepreneuriat. Je ne parle pas forcément des personnes qui travaillent dans les bureaux pour les entreprises, etc. Et même, tu peux quand même faire à ta sauce cette partie-là et enlever beaucoup de stress quand même. Hein. Parce que le stress, pour moi, c'est souvent quand on est la distance entre qui on est vraiment et ce qu'on essaye d'être est trop large. Tu vois, donc si cette distance-là est massive, c'est évident que tu vas vivre dans l'angoisse et le stress. Peu importe le métier que tu fais, peu importe la situation personnelle que tu as. Donc si tu réduis cette distance et tu reviens chaque fois vers qui tu es, le plus près possible vers tes valeurs et qui tu es, le stress va réduire automatiquement. Moi, j'aime bien cette phrase. C'est une phrase que Elena Brouwer, une de mes amies et aussi un coach, un mentor que j'ai aussi. Et elle utilise cette phrase souvent. Elle dit « Travaille comme un comptable, mais pense comme un artiste et un créatif. » Donc, quand les choses... Quand tu sais que tu as besoin de créer en tant qu'entrepreneur. Tu as besoin des spirales de création tout autour. C'est nécessaire, c'est essentiel, etc., etc. OK. Et parce que tu as trop d'idées, tu t'es mis trop de choses sur l'assiette, etc., mais tu n'as pas fait le travail de comptable, c'est-à-dire poser les créneaux, poser les timings, les tâches à faire tant, et tu ne les as pas respectées. Tu es stressé parce que tu veux faire quelque chose que tu vois, que tu imagines, que tu incarnes, mais tu ne t'es pas accordé le temps pour le faire, hein, et tu es frustré avec toi-même. Personne d'autre est au courant de tout ce qui se passe là, hein, c'est que toi. Hein. Donc... Il faut revenir à cette idée, ok, d'accord, j'ai toutes ces idées-là. Est-ce que c'est faisable de faire tout ça? Qu'est-ce que je veux faire en premier? Combien de temps j'ai besoin pour faire ceci? Tu vois? Et dans quelle période de l'année est-ce que je peux le faire? Parce que si toi, tu sais que ton été, c'est juste no way, il n'y a pas de place. Tu ne vas pas planifier une période de créativité pendant l'été. C'est juste stupide, tu ne vas pas le faire. Et tu vas arriver à la rentrée et tu ne vas pas pouvoir manifester ce que tu as promis à toi-même et peut-être aussi à des clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir le planning de l'année, le planning du mois, le planning de la semaine, de travailler comme un comptable qui paraît non, comment dire, baba cool, spirituel, out there, libre, etc. Mais c'est super important parce que ça libère tellement de place. Tu vois, donc de faire vraiment l'arc de ton année, l'arc du mois, l'arc de la semaine, l'arc de la journée, de mettre en place ce que tu veux faire, peux faire, dans quel créneau. Et qu'est-ce qui est important pour toi aussi dans cette journée? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un temps pour marcher dans la nature, marcher avec ton chien, passer du temps avec tes enfants ou ton chéri? Moi, j'adore l'équitation, donc pour moi, une à deux fois par semaine, j'arrête, mais totalement, et je pars avec les chevaux. Et ça, c'est hyper important pour moi, de structurer tout ce que je fais avec un planning comptabilisé, hein, donc architecte quelque part. Hein, parce que tu es l'architecte de ta vie, en fait. C'est toi qui es la maîtresse, chef d'orchestre. Tu es tout ce que tu veux manifester, c'est que toi qui gères ça. Donc, si tu te mets trop sur l'assiette... C'est évident que tu vas manifester cette... Et en fait, tu ne vas rien faire au final. Tu vas faire un pourcentage ou tu vas essayer de tout faire, mais trop vite. Et tu vas être frustré et ça ne va pas être comme tu voudrais. Et si tu as un once de perfectionnisme dans toi, ça va te frustrer à bloc parce que tu vas être là, mais je sais que je peux faire mieux. Je sais que ce n'est pas comme je le voyais la chose, mais je n'ai pas pu faire autrement. Mais l'autre chose là-dedans, et ça revient à perfectionnisme, ne sois pas perfectionniste parce que ça n'existe pas déjà. Et n'aie pas peur de mettre quelque chose out there qu'on ne sait pas complètement fini. Dans une autre vie, j'étais commerciale dans l'informatique. Et j'avais fait une formation avec beaucoup des boîtes, y compris Microsoft. Et Microsoft, quand ils lancent leur logiciel, ils les lancent comme ça, avec plein de fautes dedans. Et ils attendent que les gens disent que cette mise à jour a des fautes, a des bugs. Et après, ils les mettent à jour. Ah, il y a une nouvelle mise à jour. Ah, il y a une nouvelle mise à jour. Ah, il y a une nouvelle mise à jour. Parce que ça évite beaucoup de travail. Parce que ce n'est pas eux qui vont trouver les bugs, c'est les clients. Du coup, ils peuvent facturer une mise à jour ou une nouvelle version d'un logiciel. Donc, c'est commercial et c'est feignant. Donc, je ne dis pas qu'on doit être commercial et feignant, mais l'idée, c'est que n'aie pas peur s'il y a des petits trous, des petites choses qui ne vont pas complètement et tu peux toujours rectifier plus tard certaines choses. Mais si c'est presque prêt, n'attends pas. N'attends pas que ce soit mais parfait, 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 parce que lance des choses des fois aussi. Mettre la pierre dans l'océan.
C'est un super conseil. Tellement d'entrepreneuses qui sont perfectionnistes et qui n'arrivent pas du coup à y aller.
J'adore. Et du coup, freine en fait l'énergie. En fait, ça arrête le flot de l'énergie si tu ne lances pas ce que tu as prévu de lancer ou si tu n'oses pas, parce que le fameux syndrome de « je ne suis pas légitime », ça aussi.
Ma Charlotte, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier message pour les femmes et les hommes qui nous écoutent?
Oui, femmes et hommes, il ne faut pas oublier « the man in the house hein, », donc c'est important aussi. Ah, de vivre vraiment dans la joie. Comme la femme qui a 94 ans, là, n'oublie jamais tes rêves, vraiment. Garde toujours cette petite fille ou ce petit garçon qui rêvait d'eux en toi. Et ne perds jamais de vue cette rêve et cette vision de vie. Cette vision de vie, parce que la vie est courte. Donc, respecte la vie. Prendre plaisir dans la vie. Chaque jour, crée des petits micro-rituels qui accueillent la vie et qui encouragent le courant de l'énergie à couler en toi. Et n'oublie pas de remarquer les toutes petites choses. Vraiment. Tu regardes les nuages, mais après, la teinte de couleur entre les nuages. Regarde les arbres, mais regarde les feuilles. Regarde les tiges, regarde les oiseaux. Chante avec les oiseaux. Regarde les petits détails autour de toi. C'est super important. N'oublie pas d'envoyer de la gratitude et de l'amour et du respect à ces petits détails.
Merci infiniment pour tous ces riches partages.
C'était un plaisir.
J'adorerais que tu reviennes aussi pour que tu nous parles de comment tu prends soin de ta peau, parce que ta peau est extraordinaire. Je sais que tu fais un peu de face yoga maintenant.
Yoga du visage.
Ouais, yoga du visage.
Pas que, mais yoga du visage, oui. Donc, je dors. J'essaie vraiment de dormir.
Ouais.
Dormir, je conseille, c'est pas mal.
Ouais,
tu vois,
ça
déjà,
fait du bien.
Ça fait du bien. Quand vraiment il faut que je me repose, je me repose. Je prends 20 minutes l'après-midi, je m'allonge. Hein. Et oui, je fais du yoga du visage depuis peut-être 3 ans.
Ok.
Depuis 3 ans, je fais ça. Donc, mais pas longtemps par jour. Je fais des cycles de 30 minutes par jour, de 10 jours, etc. Vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Je fais tous les mois comme ça. C'est très chouette en live. Mais personnellement, je fais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ou si je sens qu'il y a du stress sur le front, je suis avec quelques techniques. Et des bonnes huiles aussi. Je ne mets pas forcément crème sur la peau. Je mets beaucoup d'huile, en fait, sur la peau.
Trop bien. Et je mettrai en lien dans la fenêtre de l'épisode ton contact Instagram, parce que tu fais pas mal de lives, tu partages pas mal de contenu. Et bien sûr, vers tes programmes, Spiritude, vers tes autres programmes aussi, parce que je sais que tu en as
Earth
plusieurs.
School, voilà. Earth School, il y a plein de programmes. C'est vraiment un chouette plateforme, communauté, domaine, je ne sais pas comment l'appeler, pour le développement personnel. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, les programmes.
Merci infiniment Charlotte pour ton regard, ton énergie. J'ai voyagé avec toi, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai hâte de faire les petits exercices que tu as proposés. Et merci encore pour ton magnifique travail. Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. Personnellement, j'ai adoré ce moment avec Charlotte Saint-Jean. J'ai vraiment aimé cette partie de la saison de la queen, de la reine, que j'avais jamais conscientisée ou du moins jamais appelée comme ça. J'ai vraiment trouvé ça canon. Et de ton côté, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour me dire ce qui t'a le plus parlé lors de cet épisode. Et puis tu le sais, mais je mets tellement d'amour et de soin dans ce podcast
pour que tu reçoives chaque semaine un épisode de qualité. À chaque fois, je me dis, est-ce que vraiment moi, je paierais pour avoir ce contenu? J'ai envie d'avoir un contenu de trop belle qualité. Donc si le podcast te plaît, alors si tu ne l'as pas fait, j'adorerais si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et si tu n'as pas Apple Podcast, si vraiment tu n'as pas Apple Podcast, alors viens me laisser 5 étoiles sur Spotify. It really fills my heart. Encore une fois, comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles, my dear. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une véritable queen, peu importe la saison de ta vie. Et surtout, tout est possible. Alors crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une belle journée, belle soirée, où que tu sois. Et je te dis à la semaine prochaine.